Les nuits de France Culture. C'était en 1955, à l'issue d'un festival de Cannes, dont il avait été le président du jury qui avait attribué la Palme d'Or à Marty de Delbertman. Marcel Pagnol déjeunait avec Marcel Achard, Georges Simenon, Anatole Litvak et avec Alexander Korda, qui avait réalisé Marius en 1931. Un micro de la RTF s'était glissé dans l'auberge où ils étaient réunis pour enregistrer leurs impressions d'après-festival. Dans ce moment de détente propice aux plaisanteries, c'était l'occasion de saisir le récit de quelques souvenirs, notamment ceux qu'avaient en commun Korda et Pagnol du tournage de Marius, durant lequel était né chez l'écrivain dramaturge Marcel Pagnol le désir de réaliser des films. Conversation entre Marcel Pagnol, Marcel Achard, Georges Simenon et Alexander Korda, enregistrée le 12 mai 1955.
C'était jeudi dernier, le festival venait d'éteindre ses lumières de gloire. Le président du jury, Marcel Pagnol, Anatole Litvak et Marcel Achard, membres de ce même jury, décidaient un déjeuner de détente en compagnie de Sir Alexander Korda et de Georges Simenon à la Bonne Auberge, dont les propriétaires, M. et Mme Vincent Baudouin, sont de leurs amis. Par un heureux hasard, je fus admis à la fête. Marcel Pagnol avait ordonné un déjeuner provençal, arrosé de vin du Belay dont Bagnis a le secret. On croqua la cébette au sel, on dégusta le poulet au thym, les primeurs du jardin, la tarte aux fraises et le sorbet au citron. À l'heure du café, je proposais de planter le micro au milieu de la table et de demander à Marcel Pagnol, l'auteur de Marius, à Georges Simenon, le père du commissaire Maigret, à Marcel Achard, l'auteur de Jean de la Lune et Voulez-vous jouer avec moi, et à Sir Alexandre Korda, producteur du Troisième Homme et metteur en scène de la trilogie de Pagnol, de parler cinéma. La proposition était audacieuse, j'attendis anxieusement la réponse, ils acceptèrent enfin et je m'adressai d'abord à Marcel Pagnol.
Je voudrais vous demander, Marcel Pagnol, comment vous avez été conduit, comment vous avez été amené à tourner Marius avec Sir Alexander Korda.
Vous savez, c'est une histoire très longue que je ne vous raconterai pas toute, mais voici ce qui s'est passé. On jouait Marius depuis assez longtemps au Théâtre de Paris, lorsque la société Paramount, qui avait des studios à Joinville, a décidé de tourner Marius. La première fois, ça n'a pas réussi, parce qu'il voulait changer tous les acteurs. Il voulait remplacer Rému par Jean Murat, il voulait remplacer Freinet par Henri Garat, il voulait remplacer Demasis par Marcel Chantal. Alors, j'ai refusé. Alors, quelques temps après, peut-être un an après, on m'a dit, bien écoutez, on va prendre votre troupe.
La pièce se jouait encore.
Marcel Achard.
Oui. La pièce se jouait encore, c'est ça qu'il faut dire. C'est intéressant.
Merci. Oui, la pièce se jouait encore, on me dit bien.
Il y a trois pièces de Marcel Achard à jouer dans le même temps. On a gagné des billets de 1000.
Des vraies montagnes avec Sankara.
Des vraies montagnes.
Mais alors continuez, Marcel.
Et alors on me dit, et comme vous ne connaissez pas le cinéma, j'avais même vu une caméra. On va faire venir de Hollywood le plus grand metteur en scène qui s'appelle Alexandre Korda.
C'est pas vrai du tout, j'étais le plus petit metteur en scène de Hollywood.
Tu avais fait Helen of Troy qui avait été...
C'était un four noir.
Un très grand succès en France.
Dans toutes les cinémathèques et partout. Donc,
alors je dis à Rému, il va venir un metteur en scène d'Hollywood qui s'appelle... qui s'appelle Alexandre Korda. Il me dit, pourquoi on fait venir un Hongrois d'Olive Oil pour nous apprendre à être Marseillais? Et il refusait absolument de tourner. Et alors Korda est arrivé, il avait un chapeau melon. Il était très jeune, il avait un chapeau melon parce qu'il trouvait que ça faisait bien, que ça faisait sérieux. Et alors...
Il n'a pas changé.
Et alors il a vu Rému.
C'était joli.
Le chapeau melon. Il était joli, mais il était melon. Et alors, Rému a vu Corda, et Corda a vu Rému. Et Corda a compris tout de suite. Il lui a donné un cigare d'à peu près 30 cm. Et Rému m'a dit, ce type est extraordinaire. C'est un homme intelligent, il ne faut pas se mâcher avec lui. Et c'est comme ça que nous avons tourné Marius.
C'est toute l'histoire. D'ailleurs, il faudrait que je donne chaque jour un cigare de 30 cm à Rému. Et j'ai resté toujours très intelligent. Et mon intelligence était de garder tout ce que Pagnol a écrit. C'était très difficile dans ces temps-là, parce que les metteurs en scène de génie ont jeté toujours les mots de l'auteur. J'ai gardé Marius avec le résultat qu'il vit encore.
Il vit toujours après 27 ans.
Dernièrement, j'ai vu à Zurich ton film. Je ne sais pas, est-ce qu'on a payé quelque chose ou non.
Mais pourquoi tu dis ton film? C'est le nôtre.
Ah, le nôtre.
Bon. Et puis alors, non, ce qui est le plus important dans l'affaire de Marius, c'est que je n'avais jamais vu une caméra, je ne savais rien, et c'est Alex qui m'a tout appris.
Et c'était en même temps où j'ai rencontré Marcel Achard, Georges Simenon, et bien nous sommes tous, tu es vieux, Marcel est vieux, Georges est vieillard, tout non. Ça.
Je ne
parle
jamais, attention, je ne parle jamais,
c'est la seule
qualité. C'est incroyable, cette déclaration est ignoble, mais elle est justifiée.
Tu viens d'avoir un cigare de 30 cm aussi, hein.
Elle est justifiée.
Il l'a reçu hier, il ne m'a donné pas le prix de Cannes.
Ah oui, c'est ça.
Malgré le cigare.
Oui, c'est ça.
Ce qui prouve qu'il est parfaitement honnête,
oui.
Marcel.
Oui, peut-être qu'il a reçu deux cigares de l'autre.
Mais non, justement, c'est la preuve absolue. Tes cigares étant de beaucoup les meilleurs, c'est bien connu. Je n'aurais pas pris deux merdatos contre un cigare de Corda, tu comprends ce que je veux dire.
Bon.
Dites-moi, Georges Simenon, à cette époque-là, lorsque Corda, Pagnol préparait Marius et que Achard était présent, est-ce que vous avez écrit un papier ?
150 mots.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, j'étais une sorte de forçat. Pendant que ces gens-là travaillaient déjà dans l'art, moi, je travaillais dans la littérature alimentaire. J'écrivais tous les jours 80 pages de romans populaires. Alors, j'étais un pauvre type qui n'osait pas dire son nom. Je signais Georges Sim, Christian Bruel, Sarah Miscrieux, Pliqué Ploc, Poumézette. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Alors, vous vous rendez compte, pour me présenter, je n'osais pas dire que j'étais écrivain.
Et vous, Marcel Achard, futur académicien, que faisiez-vous à cette époque-là?
Tiens, vous allez un peu vite, là, non, de tout même. Ce que je faisais à ce moment-là, eh bien, j'ai rencontré un jour Alex Corda dans un train en venant de Berlin. Et je, spontanément, un geste irraisonné, mais peut-être stupide d'ailleurs, je lui ai dit mon admiration. N'est-ce pas? À la suite de quoi, une amitié a commencé qui ne s'est pas arrêtée, même avec, comment dirais-je, le verdict du jury d'hier, dont il vaut mieux ne pas trop parler peut-être aujourd'hui. Voilà.
Parce que je dois dire qu'évidemment, indifférent divise les ex-membres du jury. Marcel Pagnol, je peux dire, les ex-membres du jury maintenant, puisque...
Ah oui, ex-membres.
Et un des candidats qui était en l'occurrence Alexandre Corda. Ils se sont fâchés pendant 24 heures. Il y avait 24 heures d'intimité, c'est exact. Et les 24 heures ont été échues tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle on évoque d'ailleurs cet incident, enfin incident entre guillemets et même entre parenthèses, de ce festival du film. Alexandre Corda, je voulais vous demander, à vous aussi, quelle était votre impression alors lorsque, arrivant d'Hollywood avec ce chapeau melon que décrivait tout à l'heure Marcel Pagnol, vous avez trouvé Marcel Pagnol. Quelle impression vous donnait-il à cette époque-là?
À peu près la même chose comme aujourd'hui, un peu fou, un peu charmant,
une espèce un génie. Une espèce de Hongrois du midi.
Hongrois du midi, ouais.
Comment était-il? Que disait-il?
Il était tard. Il était toujours tard.
En retard.
En retard. Mais c'était un temps merveilleux pour faire ce film. Et c'était une œuvre d'un homme de génie.
Eh bien, écoutez. Écoutez, moi, je trouve qu'il va un peu fort, mais enfin, tout de même...
C'est
un
génie. Tu as eu, dans ce temps-là, ton pièce.
Oh, oui, mais ça ne s'agit pas
ça
de moi.
Ça ne compte pas.
Il s'agit de monsieur.
Évidemment, cette conversation pourrait durer pendant plusieurs jours, puisqu'elle dure depuis 35 ans, n'est-ce pas, ou presque.
Je voudrais quand même, si vous le permettez, je vais me permettre d'abuser un peu, puisque j'ai la chance de vous avoir, et c'est pas tous les jours, qu'on peut réunir Alexandre Cordin, Marcel Pagnol, Marcel Achard et Georges Chiménon, et que vous êtes tous les quatre hommes de cinéma, hommes de théâtre et hommes de littérature. Je voudrais vous demander, quel serait, dans votre esprit, le film type qu'il serait à écrire ou à faire, et avec quels acteurs?
Ça, on peut rien vous dire, mon vieux. Le cinéma n'est pas un art. Le cinéma, c'est un moyen d'expression qui peut exprimer la chirurgie, la géographie, l'océanographie, l'art dramatique et n'importe quoi. Alors, nous avons vu des films au festival, c'est précisément ce qui est difficile. Quand on veut donner une récompense à un film, de comparer un documentaire sur un volcan avec l'histoire d'une petite couturière, ça n'a aucun rapport. Et on nous demande quel est le meilleur. Ben, ils sont les meilleurs tous les deux, peut-être. Alors, vous me dites le film idéal, mais il n'y a pas de film idéal. C'est que vous me disiez quelle est l'édition idéale. N'est-ce pas, un roman de Balzac peut être imprimé sur du papier à 3 sous, ou en édition de grand luxe, illustré par Dignimon, autre membre du jury.
Oui, mais il restera toujours un roman de Balzac.
Et il restera toujours un roman de Balzac.
Oui.
Alors, le cinéma n'est pas forcé de faire les romans de Balzac, mais il peut les faire.
Mais ce que tu dis là est exactement la même chose pour la littérature. Oui. On imprime aussi des manuels de chirurgie, des manuels d'océanographie et des romans. Mais sa question, je crois, est tout de même, du point de vue cinéma, vu comme un art, du point de vue cinéma, vu comme une expression dramatique.
Il ne parle pas,
c'est ça. Alors c'est là-dessus qu'il pose la question. Il demande, bon, quel serait en somme, la distribution idéale. Pour un film, c'est ça que vous demandez,
c'est ça, oui,
n'est-ce
oui.
pas? Alors là, c'est
mais on pourrait nous poser la même question pour la radio. Quelle serait la distribution idéale, et ce serait d'ailleurs la même, pour une émission de radio ou pour une émission de télévision?
Ouais. Oui, d'accord. Et la réponse théâtre, qu'est-ce que vous répondriez, Marcel Achard?
Pour le théâtre, je répondrais la même chose qu'eux, n'est-ce pas? C'est une chose. Le théâtre est une. La seule différence, c'est qu'il n'a pas les. Il n'offre pas les dangers. D'usage de la technique, c'est-à-dire de caducité de la technique que présente le cinématographe. C'est-à-dire que maintenant, n'est-ce pas, nous avons vu par Le Continent Perdu que, par exemple, le cinémascope et la stéréophonie, d'ailleurs, oui. Je ne suis pas sûr du mot exact, c'est toi qui es un technicien, ça, oui. Eh bien, pouvaient apporter un immense apport. Un immense intérêt à un film, n'est-ce pas? Et que par conséquent, il se peut que dans quelque temps, les films qui ne seront pas vraiment cinémascopés et stéréophonés ne seront pas aussi intéressants qu'ils le devraient, n'est-ce pas? Mais ce qui est tout de même la preuve que ce n'est pas tout à fait certain, c'est qu'une œuvre comme Marty, qui est écrite dans une simplicité extraordinaire, et simplement avec un dialogue foudroyant et un scénario exquis, n'est-ce pas, a tout de même gagné sur l'autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous ne sommes pas sûrs que, malgré tout, le talent ne soit pas tout de même le meilleur apport au cinéma, au théâtre ou ailleurs.
Il y en a une preuve d'ailleurs à propos de Marty, c'est que non seulement il n'a pas besoin du cinémascope, mais il était excellent à la télévision, donc sur des écrans qui vont de 11 cm à 25 cm ou à 40.
Moi, je crois
c'est
même...
là qu'il a été créé, c'était pas un.
Non, mais ce qui est grave, c'est que devant Alexandre Cordin, qui est un champion de mille choses, nous sommes en train de lui dire que tout de même, ce qui est le plus intéressant, c'est tout de même ce qui est écrit.
Tout à fait un agrément, de mon avis, Rému. Est plus important, était plus important dans un film que n'importe quelle invention de grand écran du monde.
Mais bien sûr, tu as
raison. Ça devient toujours la même chose. Le grand acteur, le grand écrivain.
Est-ce que tu te souviens d'une histoire où il y avait l'ingénieur du son de la Paramount, l'ingénieur en chef, ouais. qui a passé sa tête par la fenêtre du studio ouais. et qui a dit « Je ne peux pas enregistrer la voix de Monsieur Rému ». Et tu as dit « C'est dommage ». Parce que, M. Rému, on ne peut pas changer, mais vous, on peut vous changer.
Et on l'a fait.
Enfin, la dernière question maintenant, et je vous assure que c'est la dernière, je le jure. On peut le critiquer, puisqu'il est interdit en France, et on peut vous demander ce que vous en pensez. Il s'agit de ce film, Carmen Jones. Marcel Pagnol, qu'en pensez-vous?
Bien, je pense qu'il s'agit d'abord d'une affaire juridique. N'est-ce pas? En Amérique, les œuvres ne sont protégées que 28 ans après la parution de l'œuvre. En France, elles sont protégées 50 ans après la mort de l'auteur, ce qui fait une différence énorme. Alors, les Américains ont pu tourner en se servant de la musique de Bizet, mais en France, ils n'ont pas le droit de projeter sans l'accord des héritiers ou de l'éditeur. Et ce sont les héritiers et éditeurs qui l'ont interdit. Non pas seulement pour des raisons d'argent, je ne le crois pas, car on leur en a offert beaucoup, mais parce qu'ils pensaient que c'était une espèce de parodie de l'œuvre du maître disparu.
Oui, mais ça, Marcel...
Je ne sais pas s'ils avaient raison, mais enfin, c'est une chose que je comprends très bien. Je comprends très bien, moi, que mon fils, si par hasard on veut jouer une de mes pièces dans 50 ans, en la faisant jouer par des Chinois, disent, eh bien non, moi j'estime que ce sont des Marseillais qu'il faut avoir.
Oui, mais alors...
Oui, mais ça c'est le côté... Pardon, Marcel Pagnol, je m'excuse. Ça c'est le côté juridique du problème. Je vous parle du film. Qu'en pensez-vous en lui-même de cette transposition d'un opéra français, d'une œuvre classique française, vue à travers la peau sombre des Noirs d'Amérique?
Eh bien, ça ne peut être qu'un divertissement. Ça ne peut pas être une œuvre.
Alexandre Corda?
Je trouve le film très charmant. J'aimais beaucoup le film. J'aime Bizet, j'aime Carmen sans les acteurs noirs, mais je l'aime ça aussi.
Et moi, je dois dire que je suis David de Corda et je vais vous dire une chose. Je pense que c'est une espèce de rajeunissement sans importance, comme par exemple avait fait Jouvet pour l'École des femmes, que c'est simplement un époustage de l'œuvre de Bizet qui s'était stéréotypé dans une espèce de chose stupidement opéra-comique et dont ils ont gardé absolument l'esprit. Ils ont mis, c'est entendu, elle fait des parachutes au lieu de faire des cigares sur ses cuisses. Elle fait... lui est un boxeur au lieu d'être un torero, l'autre est un MP au lieu d'être un dragon d'Alcala, mais l'histoire est exactement la même, et c'est une espèce de rajeunissement, des poustages que je ne trouve pas tellement grave, parce que je trouve que, et ça c'est ce que je tiens à dire, je trouve que la musique a été respectée, que l'esprit de la chose a été respecté, que la violence de la chose a été respectée, et que au fond ce qui embête les gens, c'est que cinématographiquement la musique intervient comme un ennui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une espèce de barre, de barrière, enfin, plus exactement, entre le plaisir du spectateur et la chose, parce que l'histoire est tellement passionnante que la musique intervient comme une espèce de chose... oui, bon...
Marcel
Pagnol, tu viens exactement de dire que, précisément, la musique de Bizet est de trop dans ce film. Alors pourquoi l'a-t-on mise? Je ne dis pas que ce soit une profanation, que c'est une chose très grave. Je dis que ce n'est pas une œuvre originale et que de faire une adaptation de Carmen comme ça, c'est une chose très agréable à voir avec une actrice adorable qui danse comme personne, n'est-ce pas, beaucoup mieux que les Carmen de l'opéra comique, sans aucun doute, mais que ce n'est pas du tout la création d'une œuvre d'art.
C'est un peu vrai. Je te donne là une petite objection. C'est assez récent, l'idée de l'œuvre d'art originale, parce que, par exemple, les grands classiques français n'étaient pas du tout gênés de prendre leur matière dans les classiques grecs et latins, et ça s'est fait toujours, et les fables de La Fontaine ne sont jamais que des fables d'Ésope et autres, réécrites à la façon française, avec d'autres poissons, avec d'autres ceci, d'autres animaux, mais c'est des histoires qui existaient. C'est très très récent, ce concept de la propriété artistique et de l'œuvre d'art originale. Oui, l'idée première ne comptait pas.
Nous ne pouvons pas nous en plaindre trop.
Non, au contraire, mais tout à fait d'accord.
Eh bien, je vous remercie, Marcel Pagnol, merci Alexandre Corda, merci Marcel Achard, merci Georges Suménon.
Vous venez d'entendre Conversation entre Marcel Pagnol, Marcel Achard, Georges Simenon et Alexander Corda, enregistré le 12 mai 1955.